La bande du jeudi. La bande du jeudi.
On est de retour en pleine actualité du HC Ajoie. Une semaine après avoir célébré les 10 ans du titre en Ligue B, la bande du jeudi se consacre aujourd'hui à l'entrée difficile du HCA dans le play-out. Après deux défaites contre Ambri-Piotta, les Jurassiens sont menés 2-0 et dans de sales draps. Plus que le résultat, c'est l'attitude affichée mardi à domicile qui a interpellé et qui a laissé perplexe de nombreux supporters. Dans ce podcast, on évoquera les performances des jaunes et noirs lors de ces deux premiers actes. On parlera des enseignements à tirer et on se projettera déjà sur les prochaines sorties qui seront décisives pour l'avenir des Jurassiens. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro. On aurait préféré bien sûr se retrouver dans d'autres circonstances, mais elles sont ce qu'elles sont et on va tenter d'apporter quelques réponses à ce début de série ratée. Salut Rafi, salut Yann.
Salut tout le monde.
Salut tout le monde.
On est un peu déçus, hein. C'est vrai qu'on aurait voulu pouvoir on va décrypter, disséquer d'autres performances du HCA que ces deux défaites initiales.
Ouais, là, ça va vite. Hein. Depuis samedi, là, il s'est passé deux matchs qui difficiles et avec ces conclusions qui sont très amères.
Ouais, c'est un euphémisme de dire qu'on est déçu parce que on espérait vraiment que l'HCA Ajoie puisse déjà dans les deux premiers matchs affirmer un peu plus que ce qu'il a montré parce que on le voit. Hein, moi, je suis resté persuadé. On est aussi bon, voire meilleur qu'Ambri si on joue notre jeu durant 60 minutes, mais ça n'a pas été le cas durant les deux premières rencontres.
Salut Yannick Fischer.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous. Tu partages l'analyse déception parce qu'on est au moins aussi bon qu'Ambri?
Ouais, je suis d'accord. Je suis toujours convaincu qu'on puisse gagner cette série et puis battre cette équipe de Ambri.
On n'est pas là que pour se morfondre, on est aussi là pour espérer. Tu étais dans le vestiaire après le match, dans cette longue discussion. L'espoir, il est de mise pas seulement chez toi, pas seulement chez nous, aussi pour l'ensemble du vestiaire.
Mais bien sûr, l'espoir est toujours là. Et puis, je suis convaincu que tout le monde qui est dans cette vestiaire va se battre pour pouvoir tourner cette série. On reste positif.
On aura l'occasion de reparler de tout ça, de tirer les conclusions de ces deux premiers actes et puis de voir quels éléments ou sur quels éléments on peut se baser pour aborder avec sérénité la suite de cette série. Mais avant cela, on va donc débriefer ce qui s'est passé depuis samedi dernier.
Le débrief.
Tu l'as dit, Michel, tu as parlé de déception. On peut aussi dire incompréhension. Une incompréhension de voir des joueurs du HCA Ajoie incapables d'emmener leur jeu et cette série de play-out dans une nouvelle dimension. Parce que c'est ça, les séries finales. Il faut réussir à amener cette nouvelle dimension. Ça prend plus, tout simplement. Plus, mais plus de tout. Mais je vais quand même donner des étoiles pour ces deux premiers matchs. Et on va commencer par les trois étoiles. Et on va commencer forcément par trois étoiles qui sont distribuées à Otton Yonka, je pense qu'il a été incontournable sur ses deux premiers matchs. J'ai écrit un phare dans la nuit là pour dire voilà quoi, c'est quand même incroyable. C'est lui tout seul ou presque qui a réussi à nous inventer une esquisse de relance la mardi soir alors que le match était à 3-0, il semblait plié. Bon, on l'a dit tout l'hiver, hein, c'est un défenseur oui, mais c'est surtout l'élément du HCA qui arrive à amener plus d'offensive, le 1-2 avec Tarmori Nonnen, c'était très bien inspiré mardi soir. Et puis son petit numéro sur le 3-2 là, qui a permis d'espérer un trop court instant. Voilà, je dis pas que c'est un grain de folie, mais c'est cet esprit-là qui fera gagner des matchs au HC Ajoie. Alors voilà, est-ce que les autres joueurs peuvent se mettre à ce niveau? Si on avait la réponse. Donc Onka qui fait pas tout juste non plus en zone de défense, je dis pas ça, mais Onka c'est bien lui qui est pour l'instant à la hauteur de ce play-out.
La petite zone d'ombre, c'est comme tu le soulignes peut-être, c'est vrai que défensivement, il est de loin pas irréprochable sur cette série pour l'instant. Mais pour moi, en tout cas, si on prend le match de mardi, c'est le meilleur attaquant du HC Ajoie, si on peut se prononcer comme ça. C'est de lui que vient la lumière, c'est tout à fait juste. Il l'a démontré, il est capable d'artifice et d'étincelle dans un match où on n'a pas su se montrer menaçant offensivement, ou du moins pas suffisamment. Il a cette qualité individuelle qui permet de faire la différence, il est ultra précieux. Et voilà, je pense qu'elles sont très légitimes, ces étoiles. Parce que à lui seul, ou presque à lui seul, il a permis d'espérer mardi. Et puis déjà sur l'acte 1, il a été déterminant. Donc clairement pour moi, pour l'instant, l'homme fort de cette série, côté Ajoie.
Ouais, moi je vais laisser de côté la partie défensive parce que j'aime pas isoler le travail d'une personne ou les erreurs d'une personne là sur cette série. Parce que pour moi, ce qui, on va en parler sûrement plus tard, ce qui dysfonctionne, c'est vraiment le jeu à 5 dans notre zone. Mais offensivement, oui, il amène toujours beaucoup. On se posait même hier, mardi, la question de savoir si c'était inquiétant que ce soit lui et puis Reunanen qui amènent de l'offensive, puis que ce soit vraiment les plus dangereux, que ce soit deux défenseurs qui amènent le plus de danger devant. Moi, j'ai aimé aussi de lui et de Reunanen le body language durant le match. On voyait qu'ils en voulaient, ils étaient énervés quand ils rataient quelque chose, quand ils ont marqué, ils étaient contents. Ça c'est aussi pour l'adversaire de voir des gars qui en veulent, qui sont prêts à tout donner sur la glace. C'est aussi ce qu'on veut voir de tous les autres joueurs.
Un regard peut-être sur les performances, on va dire globales, mais ces deux derniers matchs en particulier d'Anthony Onka, Yannick.
Ouais, certainement. Hier, je l'ai comparé avec, je ne sais pas si vous connaissez la pub, le lapin d'une certaine marque de batterie. Il a vraiment de l'énergie, il bouge les jambes. Hier, il a fait le jeu, comme tu as dit, Rafi, sur le deuxième but. Ouais, il joue très très bien et puis... très très content qu'il porte le maillot HCA, quoi.
Oui, vous avez prononcé deux fois également le nom de Reunanen. Moi, je lui donne deux étoiles. Voilà, on a parlé de cette complicité avec Anthony Onka. Il commence à vraiment bien se trouver. Et puis, je trouve que mardi, il a vraiment livré une partie solide. Alors que voilà, quand on voit que défensivement, dans l'ensemble, pour le HCA Joie, ça a été difficile. Ben, je donne trois étoiles et deux étoiles à deux défenseurs. Mais voilà, quoi, c'est un vrai apport aux côtés d'Anthony Onka. Voilà, il a cette exécution qui est souvent propre. On l'a déjà dit aussi. Voilà, bon, j'oublie pas aussi qu'il avait cette largesse sur le premier but aussi samedi à Ambry à la bande, là, quand il laisse filer le puck. Mais voilà, c'est un gros shoot. Il l'a aussi montré. On l'a tous vu, des bonnes aspirations. Voilà, le 1-2, on en a parlé aussi avant avec le pote Onka. Voilà. Moi, je pense qu'il a même fait son meilleur match depuis qu'il a acheté à jouer à mardi. Et puis voilà, c'est particulier parce que c'est au moment où son équipe vivait, entre guillemets, un désastre.
Tu parlais d'attitude. Je trouve effectivement que, pour reprendre les termes des deux, qu'il a fait effectivement son meilleur match mardi. Je trouve qu'il a sa place désormais dans l'effectif. On le sent par son apport, par son body language, pour reprendre ton expression, Yann aussi. Mais il est là, il est partie intégrante de ce groupe, il devient leader de ce groupe. Et je pense qu'en tant qu'ancien capitaine dans son ancien club, c'est un rôle qu'il affectionne. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est six tirs cadrés un mardi soir, mais c'est justement cette science du tir. Je trouve qu'il est capable, lui, de trouver l'angle de tir à tout moment. Ses tirs sont rarement dévié, ils le sont parfois, mais il arrive à attendre le moment propice pour adresser le tir, pour que le tir arrive sur la cage, pour que le tir soit dangereux pour le gardien. Et il a cette science de la lecture du jeu offensif qui permet non seulement de bonnes relances, mais aussi d'apporter des tirs dangereux. Et sur le but du HCA mardi, le troisième de Devos, ben c'est lui qui a l'initiative de l'action, sur le but de Onka aussi. Donc tout ça pour montrer statistiquement aussi l'apport qu'il a. Mais au-delà de l'apport, il a vraiment une science globale du jeu qui sème la pagaille dans la défense adverse.
Il est arrivé sur le tard dans l'effectif. Hein. Il a dû un peu s'habituer au hockey suisse déjà, à ses nouveaux coéquipiers. Il a été un peu timide dans les premiers matchs en restant pas mal derrière. Et puis mardi, on l'a vu justement prendre plus d'initiatives, prendre plus le puck, amener le puck plus devant. Il est vraiment intéressant. Il est assez complet, il a un gros shoot comme tu l'as dit, et puis la question qui se pose aussi maintenant pour le reste de la série, c'est on parle de complémentarité avec Onka. Est-ce que finalement il faudrait pas les mettre dans deux lignes différentes pour avoir deux lignes fortes aussi en défense, parce que finalement peut-être que avoir les deux dans la même ligne, c'est un peu trop, parce que pour un seul puck. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, est-ce que vous feriez le choix peut-être de les séparer puis les mettre dans deux lignes différentes?
C'est une vraie option. C'est une vraie option. Après, ouais, oui. Moi, je pense que peut-être que ça mérite aussi un petit peu plus de profondeur au moment où on a vu les difficultés défensives rencontrées actuellement par le HCA Joie. Et puis, l'autre question aussi en parallèle, c'est après, peut-être qu'on va parler plus tard, c'est est-ce qu'on continue à partir avec deux défenseurs derrière ou on part avec l'option à 5, 5 devant? Mais ça, c'est dans les leviers qu'on pourrait activer. Peut-être qu'on va discuter plus tard.
On en parlera effectivement peut-être après, mais sur l'option les séparer les deux, je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut qu'on se laisse aussi peut-être le luxe de pouvoir les utiliser les deux ensemble dans des moments forts, quand on gagne un engagement offensif, quand on a un gros momentum, ou clairement quand ils sont les deux là, ben on voit que l'apport offensif il est énorme, mais que ça peut aussi parfois ouvrir des brèches. Et sinon, je trouverais peut-être un équilibre davantage favorable. On a aussi vu une association Pilet-Thierry parfois faite, qui à mon sens est compliquée contre une équipe qui va si vite comme Brigue avec des alliés aussi rapides. Donc le fait de pouvoir les mélanger, les mettre sur deux lignes différentes pourrait apporter un peu plus d'équilibre certainement. Et puis sur les moments forts, ben ça peut aussi, en les réassociant, clairement pour moi, faire une différence offensive. Donc je serais aussi assez favorable à les dissocier, par moment en tout cas, mais à les réassocier à certains moments clés des matchs.
Vichy, toi tu es défenseur, tu connaissais pas forcément Réunion, je pense, avant qu'il arrive ici.
Non, pas du tout. Mais comme vous l'avez dit, hein, il a une très très belle vision. Les sorties de zone aussi mardi. Il a très très bien fait, et ce que j'ai vu aussi, une patience sur la ligne bleue avec le puck, ou quand il fait le control breakout. Je pense que cette patience, ça c'est aussi un point fort qu'il a, que j'ai vu les derniers deux matchs surtout.
Vous voyez qui pour la dernière étoile? Je sonde là un petit peu, voir si je suis dans le juste.
Phil?
Ouais, bah voilà, Devos a marqué des goals. Moi, je l'ai dit à l'antenne mardi, j'ai bien aimé aussi l'attitude de Marco Pedretti, que j'ai pas mal critiqué cette saison. Mais mardi, il a mis des checks, il a fini tous ses checks chaque fois. Il allait embêter Michael Joly à plusieurs reprises. Et puis de le voir plus actif aussi comme ça, ben il s'est créé des occasions parce qu'il a eu des shoots dangereux. Donc ouais, il y a plusieurs joueurs comme ça quand même qu'on aurait pu hésiter. Donc je suis curieux de savoir qui t'a mis en première étoile.
Tu sais que je te rejoins avec Marco Pedretti. Il fait un tout gros premier shift, hein, qu'il a vraiment mis dans le match. Et c'est vrai qu'il fait un premier tiers où il était en mode play-out. Hein. Si on peut citer des joueurs qui étaient vraiment en mode play-out mardi soir, je pense que Marco Pedretti, il a cherché le top scorer adverse. Hein. C'est une évidence. Il était vraiment dans ce mood-là. Eh ben, c'est Philippe Michael DeVos qui aura cette étoile. Parce qu'on regarde, voilà, c'est quand même un des rares qui allait mardi là où ça fait mal, dans la zone de vérité. Il a le sens du but. Toujours le flair. Le HC a marqué 6 buts pour l'instant dans cette série. C'est 3 buts pour Philippe Michael DeVos. Voilà. Même si sa ligne, il faut quand même le dire aussi, n'a pas le rendement que l'on souhaite avec Kiki Motet et Jérémy Vic. Voilà. Il a montré la voie. Voilà, quoi. C'est ce genre de joueur dont on a besoin aussi dans ce genre de confrontation. Et puis, voilà, ça met aussi, avec ces 3 buts, en parallèle, le manque d'impact aussi des autres étrangers offensifs, des attaquants du HC Ajoie.
Ouais, s'il a bientôt le passeport suisse, je pense que il a le drapeau jurassien tatoué sur le cœur. C'est un joueur qui triche jamais, il donne tout pour le HC Ajoie. Et puis dans ses premiers matchs, il est, comme tu l'as dit, il a pas été forcément à son meilleur avantage dans toutes les situations. C'est peut-être été un peu compliqué dans leur ligne pour amener de l'offensive. On l'a un peu critiqué aussi le premier match parce qu'il a pas gagné beaucoup d'engagement. Mais quand même, il est là tout le temps, il revient à chaque fois, il se remet toujours beaucoup en question. Et puis, c'est aussi le joueur qui met les goals dans cette série. Et puis, des goals, on en a besoin.
Oui, il est diablement efficace, ça c'est clair. Et puis, dans l'attitude, on parlait d'attitude avant avec les deux Finlandais, mais lui aussi est exemplaire. On parlait d'engagement, il avait une 15% je crois, après l'acte 1 à Ambry. Mardi, il a 70% d'engagement gagné. Donc là aussi, remise en question, travail, caractère, ça rentre dans le lot. Et puis, va où ça fait mal. Il a pris combien de tampons devant la cage mardi soir à se faire chicaner dans le dos avec la canne. Il a réagi avec caractère. Et puis, voilà, encore une fois, il est décisif. Donc pour moi, le trio étoilé est celui que j'aurais aussi étoilé personnellement.
On attaque l'épine ou Fichy, un mot sur cette, où on doit aller, quoi, aller devant cette zone de vérité là. Il faut vraiment aller beaucoup plus, aller gratter ces pucks devant le gardien adverse.
Ouais, absolument. C'est là où on gagne des matchs, où on les perd aussi de l'autre dans notre zone.
Le HCA le fait pas assez sur ces deux premiers matchs.
On peut toujours faire plus. On peut toujours faire plus. On peut toujours aller plus devant le but où ça fait mal, surtout pendant une série de play-out. Et puis, Yann t'a mentionné Pedretti. Moi, je trouve aussi, hier, il a mis de l'énergie, il a, il a fini tous les checks. Et puis, c'est ça qu'il nous faut pour gagner une série. C'est d'être physique, de faire mal, pas les blessés, mais de faire mal à chaque fois que les défenseurs touchent le puck, finir le check. C'est ça qu'il faut qu'on fasse.
Ouais, ça tombe bien que tu sois là, hein, parce qu'en termes d'émotion, tu es un des joueurs phares du HC Ajoie. On se souvient de la série contre Viège, qui était mal emmanché. Hein. Viège gagnait 1-0 dans la série, gagnait 3-0 dans l'acte 2. C'est là que tu mets un gros check sur Brodecki, qui le sort sur blessure. On n'imagine pas que c'est ce que tu cherchais en particulier, évidemment. Mais ça a totalement changé le match, la série, l'attitude, le caractère de tes copains. Et c'est un petit peu aussi voilà, un élément qui est primordial dans ce genre de série, de savoir d'une manière ou d'une autre ramener l'émotion du bon côté.
Ouais, bien sûr. Moi, je suis un joueur. Il me faut de l'émotion. Il me faut de l'émotion sur la glace, dans le vestiaire. Et puis, pour moi, je trouve ça c'est crucial de mettre de l'émotion sur la glace, de faire une action. Encore une fois, tu l'as déjà mentionné, pas blesser des joueurs. C'était pas le but, mais ça reste du hockey. On est d'accord. On a le droit de faire des checks. On a le droit de faire des gros checks. On a le droit de faire mal, et puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse, surtout contre une équipe comme Ambry.
Bon, on va revenir à l'épine, et puis ça c'est un gros suspense quand même, on l'a annoncé il y a 4 minutes et puis on n'a toujours pas le nom de l'épine.
T'as cimenté le suspense, ouais, c'est beau.
Alors je vais donner cette épine à Antoine Keller, gardien du HC Ajoie, titulaire sur ses deux premiers matchs. Il est pour moi la vraie image de ce HCA dans ce début de play-out. Enfin, une présence, pas mal par moment, mais au final, quoi, ça le fait pas. Quoi. Il faut un gardien au HC Ajoie, une défense qui répond présent dans les moments chauds du match. Et Antoine Keller n'a pas été décisif dans le troisième tiers samedi à Ambry, il n'a pas été dans le deuxième mardi soir là avec les deux buts du jeune Nathan Boradori, voilà quoi. J'ai même pas cherché sa statistique d'arrêt, mais je pense que on doit pas être loin des 85%. Je pense, ça doit pas être plus élevé. Voilà. Est-ce que je voyais Damiano Tchatcho au but à Ambry pour l'acte 1? C'était, je l'imaginais, mais Keller, ça m'allait aussi. Est-ce qu'il fallait changer de gardien mardi? Je pense que peut-être que oui, voilà quoi. On en reparlera peut-être aussi, voilà quoi. Donc voilà l'épine pour la position de gardien.
Moi, je la partage avec. Il y a quelques joueurs que j'ai trouvé vraiment en deçà. On a déjà évoqué certains. Pour moi, Pilet, Thierry sont un peu en dessous quand même. Robin aussi, on voit peu dans l'adversité physique un peu plus de difficultés pour un joueur comme lui, par exemple. Des Sopa, des Motet se cherchent aussi encore un peu. Bref, mais c'est vrai qu'au poste de gardien, ça ne pardonne pas. Et quand on aborde des séries comme celle-là, où sur le papier c'était serré et sur la glace c'est serré aussi, c'est vrai que le gardien a un profil particulier. On attend peut-être de lui qu'il les sache nous sauver un ou deux goals pour nous faire marquer un point. Et puis, j'ai pas trouvé Keller décisif non plus. Je le trouve un peu dans le doute aussi par l'attitude. Hein. Il a beaucoup relâché de puck. Son jeu de canne était incertain quand même à plusieurs reprises mardi. Donc, je pense pas qu'il respire la confiance pleinement non plus. Et voilà, il y avait le duel, entre guillemets, si je peux l'appeler comme ça, Tchatcho et Keller, effectivement, entre l'insouciance de la jeunesse d'un côté et le talent, évidemment, d'un joueur comme Keller, ou ben, le talent aussi d'un Tchatcho avec peut-être plus de métier. Et voilà, à voir ce qu'il adviendra de la suite, mais pour l'instant, effectivement, je ne suis pas non plus très convaincu par les performances d'Antoine Keller, sans être trop sévère non plus, mais c'est vrai qu'il n'a pas fait gagner de points au HCA, il n'en a pas forcément fait perdre non plus, mais son incertitude, l'incertitude qui plane autour de lui, c'est plus cet ensemble-là qui me fait un petit peu douter pour la suite.
On ne peut pas franchement lui reprocher de gros, des goals vraiment, ouais, vraiment des grosses erreurs, mais effectivement, si on reprend le shoot de Zwerger samedi, qui vit en plein milieu du slot devant lui, on peut l'imaginer qu'il peut essayer de la reprendre. Des shoots quand même assez loin, chaque fois qu'il finit dans la lucarne, c'est des bons shoots, mais on attend ce gros arrêt, hein. On a Kiki Motet, je crois, en power play, je sais plus quelle situation, à part entre lui mardi, qui envoie, comme d'habitude, une de ses grosses mines de la lucarne. Vutrich, lui, il met le gant, il fait le gros arrêt. Keller l'a pas forcément fait. Et puis, on a besoin de ça. On n'est pas bon. C'est sûr que quand tu reprends 11 goals en deux matchs, tu regardes un petit peu dans les buts qui c'est qu'il y a. Et puis, tu attends un peu plus du gardien. C'est pas le gardien qui fait tout, mais c'est vrai que la défensive à Joulotte pose de gros problèmes. Donc, quand on offre autant de temps aux adversaires pour shooter puis trouver lucarne, le gardien, bien sûr, c'est plus compliqué pour lui. Mais moi, personnellement, comme tu l'as dit, Rafi, j'aurais bien vu Tchatcho pour commencer cette série. Même après le premier match, j'imaginais qu'il allait peut-être avoir une rocade pour avoir les deux gardiens dans la série aussi. On a choisi de reconduire Keller. Moi, je suis persuadé qu'il faut faire un changement pour le troisième match à Ambry, à voir ce que le coaching staff va décider.
La bande du jeudi.
On parlait de Keller, on parlait aussi de ses nombreux buts encaissés. Il y en a 11 quand même en deux matchs. Alors certes, il y a eu de la cage vide par là-dedans, évidemment, mais n'empêche qu'il y a des problèmes dans la défensive, de gros problèmes, tu viens de le dire, Yann. On va peut-être prendre quelques instants pour les identifier. Ces quelques problèmes majeurs, on va dire, de la défensive du HC Ajoie. Peut-être, Yann, j'aimerais avoir ton regard, toi, sur... on en a parlé ensemble dans le commentaire qu'on a fait du match mardi, mais on s'est fait avoir... plusieurs fois sur des séquences répétées, à savoir des joueurs qui parviennent à prendre de la vitesse en zone neutre, qui pénètrent dans la zone du HC avec beaucoup de vitesse, et ça a conduit sur de très nombreuses réussites, voire séquences dangereuses. Ça, c'est vraiment le problème majeur du HCA qu'il s'agit à présent de cadrer quand même.
Oui, alors quand tu parles de défensif, faut bien prendre dans la globalité du jeu. Hein, c'est 5 joueurs qui sont sur la glace, puis qui doivent défendre à partir déjà du forecheck dans la zone... dans la zone défensive d'Ambry. Et puis on voit vraiment sur le deuxième but de Nathan Boradori une relance depuis la zone qui va directement de l'autre côté. On a Tsverger au match à Ambry qui dribble 5 joueurs dans la zone neutre puis qui arrive à aller dans notre slot. Et puis ouais, dans les matchs hier, puis même encore à Ambry, on voit beaucoup de joueurs d'Ambry pouvoir rentrer sur les ailes avec de la vitesse. Et puis après, pour les défenseurs, c'est super compliqué parce qu'on est flat foot, on a les pieds un peu arrêtés en zone, et puis on a, comme sur le but de Formanton, des attaquants qui viennent avec pleine vitesse devant le goal, des passes qui viennent de gauche à droite, et puis c'est très compliqué à défendre, et puis on se fait avoir beaucoup de fois comme ça, mais ça part pour moi la défensive, le problème il part vraiment du forechecking, de cette fermeture de la zone neutre, et puis après aussi fermer un peu mieux notre maison dans la zone défensive.
Est-ce qu'on a vraiment les arguments pour contenir cette rapidité, cette vivacité des attaquants d'Ambry en zone de défense?
Moi, je dis oui.
J'imagine que oui aussi.
Quand tu vois des matchs contre Tsoug, qui était sûrement des meilleurs matchs de la saison, Tsoug, ils ont certainement parmi les attaquants les plus rapides du championnat. On arrive très bien à jouer défensivement, puis à éteindre même contre Zurich. Je pense que contre n'importe quelle équipe de National League, le HC Ajoie a montré dans certains matchs qu'il était capable de jouer droit dans les yeux et puis pouvoir contrer n'importe quelle défensive. On va revenir à Ambry, c'est pas des foot de guerre, c'est pas des Malguines, c'est pas des Andrighetto, c'est pas des Hoffman. Oui, ils sont rapides, mais on a les armes pour les contrer.
Ouais, puis on peut aussi se poser la question du casting, mine de rien, parce que, alors certes, il fallait peut-être pointer quelqu'un du doigt après l'acte 1, mais on a pointé du doigt Gaël Christ, qui est le seul qui a payé... entre guillemets numériquement, la défaite initiale. C'est lui qu'on sort sur le match 2, alors que c'est un défenseur qui est complet, qui est mobile. Et on a pu constater après l'acte 1 que justement la vitesse des ailiers d'Ambry, et de manière générale la vitesse du jeu d'Ambry, nous a causé beaucoup de difficultés. Et on enlève un défenseur rapide pour en mettre un qui n'est pas forcément moins rapide, en l'occurrence Nussbaumer, mais on laisse d'autres profils plus lents sur la glace. Est-ce que c'était le bon choix? À mon sens, non.
Si je reprends le téléphone de mon chum Martin Bergeron après le deuxième tiers mardi soir, qui dégoûtait est rentré à la maison. Lui, il en peut plus de voir certains joueurs sur la glace qui manquent de vitesse. Et puis, comme tu l'as dit, moi, Gaël Christ, on l'a pointé du doigt à Ambry. Moi, j'ai pas trouvé qu'il ait été si catastrophique que ça.
C'était un changement esthétique. C'était pour faire un changement dans l'effectif. Je vois pas ça autrement. On remplace un profil identique par un autre profil identique.
Pierre, moi, en plus, je trouve que niveau signal, tu re-signes ce jeune pour 3 ans, puis tu le pointes, puis tu le mets sur numéraire au match 2 des play-outs. C'est pas super signe quand même pour lui, pour la confiance, pour le reste des play-outs s'il joue, et puis pour les prochaines saisons.
Yannick, on ne va pas te demander de juger évidemment le coaching du staff qui t'entraîne.
J'espère bien, ouais.
mais sur l'ensemble de ce qu'on vient de dire, cette vitesse d'Ambry qu'on a quand même pu constater sur les deux matchs, c'est ce qui nous fait, à notre sens, le plus mal défensivement en tout cas. Elle est maîtrisable, il y a des clés pour la maîtriser.
Mais bien sûr, elle est maîtrisable. Comme Yann l'a dit, on l'a montré plusieurs fois, c'est pas du tout qu'ils ont les attaquants les plus rapides dans la Ligue. Pas pour dire qu'il a... C'est clair, ils sont rapides, mais on a certainement les moyens pour les défendre. C'est clair.
C'est des attaquants qui sont quand même passés à côté de leur saison. C'est des attaquants qui ont fait des mauvais matchs toute la saison et on leur donne la possibilité de prendre confiance maintenant, hein, tout simplement. Hein.
Mais on voit un gars comme De Luca, il est en feu, quoi. Le gars, il pénètre la zone, il shoot une fois sur deux, c'est lucarne. On voit que ces gars-là ont pris un crédit, une confiance et ce serait bien qu'on arrive à leur couper l'herbe sous les pieds, si je peux dire ça comme ça, mais leur ôter un peu de confiance rapidement parce que sans leur manquer de respect, mais avec les armes qu'ils ont, qui ne sont pas les mêmes que Malguin Enriqueto, pour citer les exemples qu'on a pris avant, ben avec ces armes-là, celles du cœur, de la rage et puis surtout de la confiance, ben ils nous font vraiment très mal, quoi.
Je ne sais pas si on va rebondir là-dessus tout de suite, mais on peut aussi parler de ces attaquants suisses d'Ambri qui, de cette profondeur, je crois que sur les 11 buts marqués par Ambri, il y en a 8 par des attaquants suisses. Donc on voit aussi qu'ils ont ces deuxième, troisième vagues qui leur permettent aussi de mettre plus de pression que le font les attaquants du HC Ajoie.
Tu as cité De Luca et puis Baradori à Porrentruy, ces deux joueurs qui ont pris des clutch players, qui ont pris chacun leur match. Hein, deux buts pour De Luca samedi, deux buts pour Baradori mardi. Ils ont fait tourner un peu le match à eux tout seuls, mais ils prennent leur chance. C'est vrai que, mais il faut dire que moi je pense que on les a bien aidés, hein, parce qu'on est quand même assez inexistant en zone défensive. On se fait battre, puis même au deuxième tiers, là, mardi, on a eu trois situations de suite avant qu'ils marquent le 2-0, je crois, ou avant le 3-0, je ne sais plus exactement, mais où ils se retrouvent trois fois dans le slot avec 3-4 secondes pour pouvoir avancer et puis ajuster le gardien. Là, sur le coup, Keller a réussi à faire les arrêts. Mais il y a beaucoup trop de liberté pour les joueurs d'Ambri dans notre zone.
Oui, et puis on parlait tout à l'heure avec Yannick justement de cette capacité que certains joueurs devraient avoir de pouvoir donner un momentum, une émotion. Un gars comme Baradori, il joue mardi son deuxième match de National League, il a 19 ans, il n'a même pas brillé à Bellinzone.
Son neuvième match.
Ah, son neuvième match ? Ah, ok. Oui. Ouais. Alors, bref, c'est pas un néophyte, mais c'est un tout frais joueur de National League. Et puis on l'a regardé, à mon sens, avec beaucoup trop de respect dans les situations où il s'est montré dangereux. Et de nouveau, ça permet à ce genre de joueur qui est en quête de confiance, justement, de prendre ce crédit-là et puis de briller, alors qu'on aurait, à mon avis, pu limiter ses performances en montrant tout de suite qui est à la maison mardi soir et puis en montrant tout de suite que c'est pas un jeune de 19 ans qui va intimider le HC Ajoie.
La bande du jeudi. La bande du jeudi.
Avec tous ces retours, on constate les éléments que chacun de nous a envie que le HCA amène en plus. On a parlé des émotions, bien sûr. On a parlé de l'agressivité qui était meilleure mardi, mais qui peut encore être peaufinée. Ça, on a pu le lire tant dans ton article graphique que dans le mien. Et puis, on a pu l'entendre également dans la patinoire. Mais concrètement, peut-être si on se penche cette fois-ci dans les éléments concrets qu'on verrait, Rafi, Yann et moi, sur l'acte 3, que faudrait-il changer concrètement dans l'alignement du HC Ajoie, au-delà des aspects d'envie, de motivation, pour que ça tourne, entre guillemets, enfin, et qu'Ajoie puisse faire basculer la série?
Il faut secouer le sac, il faut peut-être des décisions fortes, et quand je parle de décisions fortes, je mets tout sur la table. Il faut maintenant se poser des questions. Il est minuit moins deux, oui, il faut être patient, oui, la série peut encore tourner, mais il faut peut-être prendre le taureau par les cornes et se poser peut-être des bonnes questions. Le HCA reste quand même sur une victoire dans les 10 derniers matchs, et là, on demande d'en gagner 4 sur les 5 prochains, donc secouer le sac. Il y a beaucoup de joueurs surnuméraires qui ont certainement envie de montrer et peut-être d'aller chercher aussi des contrats qui sont capables de tourner cette série, et puis peut-être d'autres décisions.
Il y a des options, hein, tu l'as dit, il y a beaucoup de joueurs surnuméraires, on a des étrangers qu'on peut remplacer, on a des joueurs qu'on peut replacer. Moi, je vis qu'à l'aile, c'est pas ma position préférée, j'aime bien le voir au centre. Il y a Sopage en 3-4e ligne, c'est vraiment sa place, ou est-ce qu'on peut pas le donner un peu plus aussi d'opportunités sur les deux premières lignes, parce que c'est un joueur qui peut amener beaucoup. Est-ce que le retour d'un Johnny Hazen avec sa vitesse peut aussi aller chercher, puis son sens du goal peut aller chercher des goals devant le but? Ouais, il y a énormément de possibilités. Le coach doit faire des choix. On a vu cette saison que il a certains joueurs qui ne peut pas enlever de son alignement, il ne veut pas les enlever. Est-ce qu'il devra être forcé de le faire? Est-ce qu'un regard extérieur peut l'aider aussi à trouver les bonnes solutions? Je crois qu'à jouer à un coaching staff étoffé, un directeur sportif, à eux de chercher la bonne solution. Mais c'est vrai que tu l'as dit, il est minuit moins deux. On n'a pas non plus encore... on n'a presque plus le droit à l'erreur quand même au prochain match à Ambry, hein, parce que 2-0, c'est pas non plus catastrophique, parce que tu vas gagner le troisième match, qui souvent pour moi le troisième match est un des plus importants des séries. Tu vas le gagner, tu reviens à Port-en-Truy, tu remets la série even, t'as égalité, puis c'est reparti. Mais si tu vas perdre à Ambry samedi, là... T'es vraiment un peu dans la mouille, moi je dirais.
Oui, et puis par respect, on doit aussi considérer l'ensemble de l'effectif du HC Ajoie. Il y a beaucoup de monde qui s'entraîne à part, entre guillemets, ou entre surnuméraire par moment. Et puis ces joueurs-là, si on ne les rentre pas maintenant, pour moi c'est une forme d'irrespect quand même, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments. On a parlé d'un Tchatcho qui, à mon sens, doit aussi faire son retour sur l'acte 3 samedi. Pour moi, clairement, Vic doit être placé au centre. Si ça ne tient qu'à moi, je sortirai Gauthier. Et puis il faut un ailier créatif. Je pense qu'on a vu quand même, et on en a parlé en début d'émission, le danger principal. Il est venu des défenseurs mardi, et ça dans une série quand on joue l'avant-dernier comme Ambry, c'est quand même globalement insuffisant. Alors on a vu la première ligne totalement passer à côté mardi, ils finissent tout ça à moins 3, et puis ça a été vraiment la limite de l'acceptable. Ça a été beaucoup beaucoup mieux samedi, où quand ils étaient sur la glace, ça a été l'étincelle systématiquement. Mais à côté de ces gars-là, pour moi il faut un ailier créatif, pourquoi pas un Stuckel aussi, ça peut être la carte joker, le gars qui, tu parlais de mauvaise série Rafi, il l'a pas connu, lui il a connu une bonne saison à Bâle, où il a été excellent dans les moments clés, très bon buteur, très bon passeur aussi. Il a tout en main, pourquoi pas pour franchir un cap, pour aller chercher un contrat, comme tu le disais aussi, en National League. Pourquoi pas lancer un gars comme ça, qui va jouer certainement très libéré, mais qui pourrait nous apporter un artifice. Mais entre Johnny et lui, pour moi, un des deux devrait être sur la glace samedi. Pascal, on a besoin de créativité, on a besoin d'un finisseur. Et puis le profil d'un de ces gars-là peut faire la différence. Et puis par rocade, ben voilà. Placer Vic au centre, je pense que ça peut être bénéfique.
Ouais, puis on a besoin de on peut pas s'appuyer que sur une ligne. Hein. On a samedi à Ambry, la première ligne avec Netinen, Turkoulainen et Pigottier ont fait le job, mais tu l'as dit, la ligne de Devos était un petit peu en retrait. On l'a à Port-en-Truy, je pense qu'il y a offensivement il y a aucune ligne qui a été vraiment transcendante. La 3-4e ligne ont fait un gros boulot, mais c'est leur boulot 3-4e ligne d'aller mettre des checks, de l'intensité. Mais cette saison, on l'a vu qu'on a osé remettre Hazen avec De Vos. On a une paire qui fonctionne, puis qui amène l'offensive. Si tu peux avoir nos deux Finlandais en première ligne et puis nos deux Québécois en deuxième, t'as au moins peut-être deux lignes qui peuvent aller chercher des goals. Et puis après, les 3-4e, il va aussi à eux de prendre la surprise. Hein. Ambry... les lignes qui marquent, c'est quelque part leur quatrième ligne, parce qu'ils font le boulot de checking line contre la première du HC Ajoie, et puis c'est eux qui vont marquer contre notre première ligne. C'est aussi les clés des matchs.
Et on garde le même coach ou on se pose la question? Non, mais parce que voilà, il y a quand même 0-2 dans cette série de play-out. Il y a
des moments quand on parle de squel sac.
Mais il y a des moments, il y a voilà quoi. Peut-être est-ce que cette équipe, ces joueurs ont-ils besoin d'une nouvelle motivation, d'un nouveau discours, d'un nouveau souffle? On voit Ambry, un joueur comme Boradori, voilà quoi, avec un nouveau coach Tapola, il peut se mettre en évidence, avoir du temps de jeu. Peut-être que s'il y a un souffle nouveau, peut-être que ça peut amener des nouvelles vagues avec des joueurs comme Robin, comme Cormier ou d'autres qui aura cette possibilité là aussi peut-être de s'émanciper. Il y a déjà eu dans cette saison des moments où la porte était ouverte peut-être à une nouvelle direction à la tête de l'équipe, elle n'a pas été prise, c'est le troisième moment. Et puis si la décision doit être prise, c'est après ce deuxième match, ça ne sera pas après une troisième défaite, si troisième défaite il y a. Donc la question se pose.
Je partage
talent, je pense qu'elle est légitime.
Et puis il y a un élément aussi qu'on a vu à part un truc que j'avais personnellement jamais vu, je crois, c'est quand les staff est sorti après le deuxième, à la fin de la pause du deuxième tiers-temps, le staff et uniquement le staff a été sifflé plutôt copieusement par le public. Il n'y avait aucun ajout sur la glace, hein, hormis le staff. Et vraiment, les sifflets étaient adressés clairement au staff. J'avais personnellement, je crois, jamais vu ça, des sifflets vraiment tournés vers le staff. Greg Island lui-même regardait un petit peu dans le vide en se disant « qu'est-ce qui m'arrive ?» Donc on voit clairement que l'unanimité n'est plus là. Ça, c'est un secret de polichinelle, mais oui, ça fait partie des réflexions, effectivement, pour pouvoir redonner un soupçon d'énergie à ce groupe.
Et un changement de paradigme, hein, dans les HC Ajoie, les supporters, je crois que là, la goutte d'eau a fait déborder le vase. Au match mardi, la non-combativité qu'on a vue des joueurs, fait que le soutien indéfectible que ses supporters ont pour le club, là, eh ben, il s'est exprimé contre le staff, tu l'as dit, par des sifflets à la fin du match aussi. On a vu des attitudes pas forcément très sportives de la part de certains supporters à la fin du match, mais ça montre aussi le ras-le-bol. Hein, je crois que on peut pas reprocher au public Ajoulo d'avoir été patient. Et puis, est-ce que l'Ajoulo allait trop avec son coach? C'est la question. Hein. Au mois d'octobre, on s'est posé la question. Au mois de novembre, on a dit ouais, c'est peut-être trop tard parce qu'avec avec les JO, la pause, c'est peut-être trop tard. Et puis maintenant, ouais, ce qu'il faut faire parce que c'est pas trop tard. Trop tard, ça sera quand? C'est quand Ajoa sera en Ligue B ou c'est la question qu'on peut vraiment se poser. Il faut ouvrir les yeux puis pas se voiler la face. C'est une possibilité qu'il y a. On la souhaite pas, c'est clair. On est fan de Sierre, on est fan du HC Ajoa, mais beaucoup de supporters se posent la question de savoir si y a encore un lien de confiance entre l'équipe, les joueurs et puis le coaching staff. Parce que on entendait mardi soir dans les travées. Ouais, mais on a l'impression que les joueurs, ils jouent contre le coach. Dans des play-outs, c'est un peu compliqué.
C'est vrai ça, Yannick?
Pourquoi?
Non, je suis honnête.
Maintenant, on est dans une série de play-outs. Mon boulot en ce moment, c'est de tout faire pour revenir jouer. Et puis, je vais pas faire des commentaires maintenant sur le line-up. Sur le coaching staff.
Mais dire que l'équipe joue contre le coach.
Ça, c'est à vous de faire. Et puis, si je te réponds à ta question, moi, je trouve pas qu'on joue contre le coach. On est dans une situation où on joue pas contre le coach, on joue pour notre putain de boulot. C'est ça qu'on fait. Voilà.
Sur le grill.
Tu parlais que ton boulot, hein, Yannick, c'est de revenir au jeu le plus vite possible. La question que tout le monde se pose, c'est t'en es où physiquement? T'es proche d'un retour ou t'espères pouvoir retourner avant? Alors enfin, la fin de ces play-outs.
Je fais tout pour, hein. J'ai pas de date, je sais pas. Ça avance, je fais physio, je fais tout ce que je peux. Et puis je prends jour par jour, semaine par semaine pour pouvoir retourner, quoi.
Comment tu vis cette série de play-out là qui est aussi particulière pour toi, parce que c'est la fin d'une histoire aussi pour toi. T'as quel sentiment en toi là? Il y a beaucoup de stress, je pense, parce que ça doit être plus difficile d'être sur la tribune que sur la glace. Et puis après il y a aussi cette fin de carrière qui approche à grands pas.
Samedi à Ambry, j'étais sur place et puis ça, j'étais très très surpris comme j'ai réagi. J'étais ultra nerveux, genre 15 minutes avant le match, ça commençait, et puis j'étais vraiment surpris parce que je m'attendais vraiment pas à ça, que je suis si nerveux avant un match que je joue pas, quoi.
Et pourtant, alors... t'avais pas trouvé de machine à café, là, près de...
Ah ouais, on a dans le vestiaire, ouais, je me suis servi au vestiaire, bien sûr. Faut pas changer la routine quand même. Ça sera complètement fou, non?
T'as annoncé cette fin de carrière, hein. C'est un moment particulier quand même pour un joueur. On parlait, je sais plus qui, que c'était vraiment une première petite mort parce que c'est une première partie de ta vie qui va se terminer, qui a occupé quasiment 24 heures sur 24 de ta vie. Là, tu vas passer à autre chose, mais ouais. T'imagines pouvoir finir ta carrière là maintenant sans remettre les pieds sur la glace, que ta saison soit finie?
J'ai beaucoup réfléchi à ça. Et puis, ma réponse est claire. L'objectif ultime, c'est d'assurer la place en Liga. Si je peux plus rejouer et on gagne cette série, je suis très, très heureux. Si j'ai l'occasion de rejouer, aussi, super. Mais l'objectif ultime, ça reste d'assurer cette place en Liga. Ça, c'est clair. Et puis, ça ne va pas définir maintenant, si je joue encore un match, deux matchs, je ne sais pas, ça ne va pas définir ma carrière ou comme je me sens comme joueur. C'est une situation où je n'ai pas de contrôle. Une blessure, c'est comme ça. Voilà, je fais tout pour revenir si j'ai l'occasion. Mais si je pourrais choisir entre rejouer un match et continuer une autre série ou finir cette série, là, c'est clair, c'est finir cette série, quoi.
Tu peux revenir pour nous en quelques mots sur l'historique de la décision? Qu'est-ce qui a fait que tu te dises, cette fois-ci, c'est stop, je m'arrête là?
Bon, le jour arrive pour tous les athlètes professionnels. Hein. On ne peut pas continuer à jouer jusqu'à nos 65 ans. ça fait longtemps que je fais ce sport. J'ai mis tout ce que j'avais, toutes les émotions, tout mon temps dedans. Mais maintenant, bientôt 36 ans, j'ai une entreprise avec mon frère où je mets déjà beaucoup de temps dedans, qui était toujours la deuxième priorité. J'ai envie de mettre ça priorité numéro une. Mon but, c'était toujours de pouvoir choisir en fait le moment d'arrêter. Je voulais pas être forcé d'arrêter. Je voulais pas être forcé d'aller jouer n'importe où, dans n'importe quelle ligue, juste pour continuer à jouer. Alors ça, c'était très important pour moi. Après, je pense aussi, avec ma femme, elle a beaucoup sacrifié. On se bat beaucoup depuis des années. C'est difficile, chacun a sa carrière. Et puis, on est souvent loin l'un de l'autre. Et puis, j'avais juste envie, en fait, de me poser, d'avoir presque une routine normale, entre guillemets. Et puis, j'ai juste senti que c'est le bon moment de mettre un terme à ma carrière. J'ai zéro regret. Et puis aussi, au niveau physique, bon, maintenant, blessure, mais... pas grave, quoi. C'est pas la tête, c'est pas... Voilà. Je suis en forme. Et puis, je voulais pas tirer jusqu'à vraiment à la fin où je suis forcé d'arrêter.
Et tu vas t'installer où, du coup? Vous allez vous retrouver?
Montreux.
D'accord.
Montreux, ouais.
Il n'y a pas de club de hockey à Montreux.
Non, il a du... Donc, roller.
Ouais. Ouais. Tu te vois commencer des nouvelles disciplines ou des nouveaux loisirs, autre chose, je sais pas, moi, du paddle ou...
Ce que je vais faire, c'est la muscu. Ça, c'est clair, je vais continuer. Il faut que je trouve une bonne routine, que je puisse faire genre une fois par jour, de lundi à vendredi. Mais des autres sports, j'ai pas encore trop réfléchi.
Donc le hockey, c'est
sauf
fini.
Le ski.
Le
sauf
hockey, le c'est ski. Fini. Tu vas pas jouer dans une petite division, peut-être avec le frangin ou des choses comme ça. Pour toi, c'est
non,
fini.
Mon frangin, il est pas en Suisse, alors ça va être compliqué. Il est en Afrique, alors ça va pas le faire. Mais le hockey, honnêtement, non, je pense pas. J'ai pas envie d'aller m'entraîner lundi soir à 9h dans une patinoire. Ça, j'ai fait maintenant pendant des années. Alors,
ou à la bande
Non, ça aussi. Honnêtement, j'ai hâte d'avoir un peu de distance après ma carrière du hockey. Je pense que ça va me faire du bien pour après, ouais, peut-être apprécier, regarder les matchs.
Dans l'œil de la vouivre.
Voilà messieurs, on va terminer comme de coutume cette émission par un quiz. 5 questions pour vous trois, la dernière pour vous, chers auditeurs.
Un peu de légèreté. Hein.
Un peu de légèreté, ça va faire du bien, on a été très sérieux, hein, c'est vrai, durant ce podcast. Ça va se concentrer sur Ambry, évidemment, puisque c'est le prochain adversaire du HC Ajoie, ça, il n'y a pas de secret.
Avec Yann Voya qui est sur son téléphone en ce moment, donc ouais, il est en train de réviser, j'imagine.
Exactement. C'est
le dernier moment.
Je charge les stats pour savoir, parce que genre, il faut briller à ce quiz, hein, avec vous les amis, mais je suis sûr que Fichy en plus il a une bonne culture hockey, donc il va nous mettre à la pâte.
on verra.
Il donne pas la pression en tout cas d'après son regard. Alors la première question, elle est somme toute assez simple. Quel est le joueur le plus utilisé depuis le début de la série, les deux camps confondus?
Tarmori ou Nanon?
Fichy?
Formaton.
Teamhead.
Juste, Teamhead. 50 minutes 36, deuxième Reunanen, 48 minutes 42, troisième Anthony Onka, 46 minutes 49.
Ouais, puis.
Formenton n'est pas loin derrière, il doit être en tout cas top 5, top 8, je pense, quelque chose comme ça.
Ouais. Et puis la question qu'on a pour samedi aussi, hein, c'est de savoir. On n'en a pas parlé, mais Teamhead, il a beaucoup de temps de jeu et puis il était secondé par le deuxième ministre de la Défense, comme tu l'as nommé, Rafi. Mais Virtanen, ça semble pas bon. Hein, la blessure qu'il a eue mardi soir au match, avec le genou qui est resté un peu coincé en arrière, sur une charge totalement correcte de Roman Hengi. Hein, il a juste fini son check à la bande, il est resté avec, mais il y a vraiment ce genou qui est resté derrière. Et puis, je suis pas sûr qu'on va revoir Virtanen de la série.
Deuxième question, combien de licences étrangères Ambry Piotta a-t-il utilisé cette saison?
7.
J'imagine les 10.
Ah non, 8.
Ah, tu changes pour 8?
Ouais, moi je change.
Alors moi je prends ton 7.
C'est 8 la bonne réponse, ça doit faire changer. Il y a donc les 6 actuels, évidemment, voilà, les 5 actuels. Ed Virtanen, Tierney, Formenton et Joly. Di Domenico qui a été donc remercié peu avant le play-out. Et puis Nicolas Pétan qui a fait 15 matchs et Michel Tchaïkovski qu'on a fait 6 et qui a aussi joué la Coupe Spengler. On continue à parler des étrangers d'Ambri Piotta et des Virtanen. On en a parlé, ce sont les piliers de cette équipe, joueurs les plus utilisés dans la Ligue en saison régulière. Tous deux sont arrivés en Levantine en même temps en 2022, mais l'un d'eux avait déjà joué avant cela en Suisse. Lequel des deux et où?
Une chance sur deux.
Heat.
Oui.
Lugano.
Tout juste, effectivement. Lugano. 2020-2021 avec un petit crochet
en jeu, mais
entre
mais
les deux en KHL.
Je lui laissais un taux d'avance pour répondre.
Bon, bro, merci, parce que les premières deux questions, j'étais loin.
Mais t'as joué contre lui à l'époque, donc ouais, tu te souviens.
J'ai joué avec lui aussi à Ambri.
On parlait beaucoup d'attachement aux couleurs, hein, d'émotion aussi. Et quand on parle d'émotion dans le hockey suisse, on pense bien sûr souvent à Ambri Piotta.
Bleu et blanc.
Alors en 2018, Ambri Piotta jouait son dernier play-out. Hein, c'était une victoire 4-1 contre Kloten. Combien de joueurs, quand je parle d'émotion, je parle aussi de fidélité au club, hein, combien de joueurs de l'épopée d'alors, donc de 2018, sont aujourd'hui encore dans le contingent d'Ambri Piotta?
Il y en a dans les tribunes, j'imagine. Pestoni, il était là?
Il n'était pas là, non.
Vas-y.
Zwerger, Kostner.
Juste.
Isacco, Dotti.
Ouais.
Grassi, il n'était pas encore.
Non. Je pense qu'il y en manque quand même un, si je demande. Oui. Juste un.
Juste un?
Qui a joué aussi au HCA.
Le frère de Doty?
Non.
Non, ça que il est plus
tard. Du coup, c'est l'autre.
Skragen?
Skragen, ouais. Il était déjà là.
Okay.
Ouais.
Moi, je suis arrivé l'année d'après, lui, il est parti à Zug.
Voilà, ouais. Et ouais, après, il a fait aussi son crochet pour entrer, on va dire, tourner, mais ouais, il était déjà là à l'époque.
Donc, Fichy est arrivé et le club a fait les playoffs, c'est ça.
Et c'était c'est ce qu'on retiendra.
C'était qui le top scorer après le premier match pour Ambri?
Bah, toi, du coup.
c'est la seule fois que tu as été top scorer, ouais. À part quand tu étais capitaine, peut-être les premiers matchs de la saison.
Ouais, c'est ça. Deux fois, j'ai porté le casque. Ouais.
Cinquième question, c'est la dernière pour vous. On va jouer. Au plus proche. Hein. Dernière question, c'est l'hymne d'Ambri Piotta, c'est la fameuse Montanara, bien sûr. Tu la connais, Fichy, par cœur?
Je pense que j'ai oublié. Non, je la connais plus.
Ah, tu la connais plus. Elle donne des frissons, évidemment. Vous en conviendrez, hein, cette montagnarde, hein, pour la traduire mot pour mot, a été composée par un alpiniste italien appelé Tony Ortelli. Voilà pour la petite histoire. En quelle année?
Il me semble que j'avais préparé pour un quiz une fois. J'avais été regardé.
Alors, on va jouer au plus proche. Hein.
1884.
Oh non, c'est beaucoup plus loin, il me semble.
Au pif?
Non, je sais pas, je vais rien dire.
1850.
Non, c'est plus tard, 1927. Voilà, pour la Montanara.
C'est sûr que c'était plus tard, plus tôt que ça, mais... Ouais, c'est un Italien.
Oh, il faut vraiment réviser un large spectre.
Oui, mais il faut en trouver cinq sur Ambri aussi. Hein. La dernière question, elle n'est pas pour vous. Elle serait facile pour toi, Yannick, mais elle est pour vous, chers auditeurs. La voici. En quelle année Yannick Fischer a-t-il disputé son premier match dans l'élite du hockey suisse? Tu t'en souviens?
Non.
Tu réviseras.
Ouais.
Ça remonte, hein, c'est pour ça. Vos réponses, comme d'habitude, par mail à bdj@lqj.ch ou alors via le formulaire que vous retrouvez sur rfj.ch. Le vainqueur, ou plutôt la gagnante de la semaine dernière, c'est Geneviève de Glovelier qui a gagné donc un cadeau estampillé bande du jeudi. Le HCA a bel et bien gagné 3 titres de champion. C'était la question que Yann vous posez. C'est ainsi que se termine cette nouvelle émission. Comme toutes les autres, vous pouvez la retrouver en podcast sur nos sites ainsi que sur différentes plateformes de streaming. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé. Merci à toi, Yannick, surtout, et belle fin de saison à toi.
Merci beaucoup.
Belle fin de carrière, devrais-je dire.
Merci.
Quant à nous, on se retrouve très bientôt.
Avec des victoires du HCA, on espère, pour pouvoir être plus positif dans cette bande du jeudi.
La bande du jeudi.